à Prague. On écoute Boyish Seto Jezustanesh de Zimnipnaou. On va écouter maintenant deux extraits de Air d'Orient. Il s'agit d'un double album avec Guy Gouchenvier, Pascal Comelade, Madame Patate et Klim Perey, et enfin Toupidec Limonade. Une face pour chaque artiste ou duo d'artistes. C'est sorti chez Un Polisson le 10 mai. Moi j'aime particulièrement la face de Madame Patate et Klim Perey. Et donc on va écouter La Rencontre et puis on enchaînera avec un extrait du morceau intitulé Le Grand Air du Trouvert de Toupidec Limonade.
Thank you. les bois. Sa jolie frimousse enterrée dans l'humus et le nez au creux de ses bras. Ses cheveux mêlés aux brindilles couronnaient son petit minois. La rosée du matin perlait à ses cils et des fils d'araignées semblaient la caresser. Thank you.
l'air de rien. L'air de rien.
Consonne. R. Consonne. R. Consonne. R.
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste
et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Ocho son negociam, ocho veninta del corpo que canto la flor, flor de la intervinterni esperan. Y la chinvenuce mi, aura grec, aura franca y canto con mi. Persa ma voce e diranta del cor Esperanto.
Esperanto.
Radio Esperanto, la cadre des radios libertaires.
Ognaknao Kumbogvar Megaherzoi, la radio de la Anarchista Federatio. La radio sen mastro, sen dio, kai sen reclamo. Et voilà donc Radio Esperanto, dans le cadre de Radio Libertaire, chaque vendredi, hein, voilà. La radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Do yen, saluton al ambao.
Yes, saluton al
yes, 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 volito, kai, hubert. Yes.
Saluton al ascoltanto.
Yes, bonne, ni commenza suffice accurate, ni dirou, yes, yes, yes. Kai, odiao, do yen la decoca, qui est le coutume, ni vidos, ti un afferon de leziono, yes, et ble la dectria, la omi, yes, do. Mi supposas nun. Kai momente. Yes. Do technica ia feroi do ni frontas non de nove ne technica i sed stas aliai qui oi anca estas en la SNDO circa oni kai ne gravas cio glatos mi esperas, voilà, tout va bien se passer, il y a du monde tout autour le studio, alors eh bien que je disais là, alors c'est la 13e leçon, hein, je crois, voilà.
Yes, yes,
c'est 13e déjà, hein. Je ne fais pas le décompte exact, mais c'est ce que j'ai annoncé en espéranto là, 13e décompte, donc qui va avoir lieu à 18h, hein. Voilà. Do yen yavas iom da tempo kaj ni preparis tiun komunikon de Liberecana Radio. Fakte tio estis jam farita en la franca lingvo kaj ĉi tie estis flugfolio kiun oni povis sin prokuri. Yes. Do ni havas ĝin, ni ankaŭ faris ke esperantistoj povos rekte jam. A audit iun communicon de l'anarchista federatio tio estis dum la congresso qui occasis en la Maya Monato. Voilà, et puis donc on vous a préparé bien avant cette leçon d'espéranto le communiqué de la fédération anarchiste qui a été la motion, voilà, qui a été faite durant le congrès de la fédération anarchiste, c'était au mois de mai. Et on l'avait déjà depuis pas mal de temps, bien sûr, et on l'avait en français, il fallait quand même en faire une traduction. Yes, 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 oui, bonne. Yes, 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 ni cachas ni dion, ni aïa auscultanto, yes, estas un chaos aliai qui oi estas en la LCNDIO, miyam diris, sed tio ne genas ni, ni li povas un chaos. Labori, Kialne, yes. Donc, effectivement, je dis, on ne cache rien à nos auditeurs, hein, c'est du direct, et voilà, il y a d'autres amis qui sont dans le studio pour apporter des choses, des affiches, etc. Donc, Yen. Chouni, qui ou les gosses Fakeni, Chou, yavasti un communicon, kai qui ou les gosses Jin ou noué en Esperanto, kai.
Les bonnes légumes, c'est les légumes, non?
Yes.
Mais tu as bien la correcte traduction.
Yes, mi povas les légumes, kai qui ou les gosses de gine en la France lingo.
Yes, mi povas.
Yes. Donc chiou, il y a vas de gine, yes, yes.
Donc après la motion de la congresso de l'anarchiste fédération, la douzecsep à douzecna ou à des mailles ou des doumel doudectri et ne colne.
Yes. Yes, yes, yes.
Paroles.
Colne, yes.
Yes, prétio de ces paroles, donc mi havas la last inversion correctite, tu vi désiras la guidjine. Ou tu si désiras la guidjine, qui?
Yes, c'est nemi havas guidjine en taou mi a yokolo, yes, sur la compétilo, ah, recte, kai. Bon. Donc, nec verda, yes, est. Donc, si annonce. Faris la Nonson por la loco, facte en colne, bedaurinde minetsiaski et io casis en colne. Mine avas la departementon de tiu urbo, urbeto, yes. Do la mozio, mi do antao diris tion ancao. La dudek sepan, dudek okan, dudek nauan. Dum tritagoia, yes. Kai, do, nec verda capitalismo, nec nuclea energio. Tiu estas do grase do scribita, estas la quasau titolo, yes. Pro interalie industria agriculturo kai pesticidoi la sauvagia fauno malaperas pli malpli grave. Foie etche ne revogeble ne renovigeble la grondoi mal fecundigas la polluzio crescas la alirode al agvo mal oftigas kai la milito circa oggi al proximigas kai intercampe kiel en Sainte-Soline yes la mineralai resursoi estas tro exploatatai la vivajoi estas tro ofte uzitai kiel resurso accaparenda
rimedo
la statoi organizas kai accompanas tiun situacion adaptita leggiaro dedicita finanzado supremo de oppositioi per sistema cresco de timoi por sin montri kiel la ununura savanto. Cio tio permesas expansion de capitalismo disfastigante sian verdan version. La statoi ludas per la ciferoi. Misformas la realetson. Modifas la vortoin. Fabricante nov lingvon. Tiel, kiel alchemisto, changas plumbon al oro, la nuclea energio ijas verda energio. Malmulte carbon dona kai neutra. Facte gi estas centralizita energio, basita sur la erza extractado en niai exai colonioi, poluante kai malsparante la agvon, generanta miltiarain rubajoin kai trudanta militan kai vogtadan societon. Farante tiun constaton, la anarchista federatio reassertas en sia 81a congresso en Colne la necesson batali contra o capitalismo, tchou verda ao ne, kai por liberezzana malcresco, comprenata kiel mal rapidigo de la ciclo productado consumado mal supreniro kiel ne ao la capabloi de la planedo kai condice ke la principai besonoi de la logentaro estu plenumitai kie ein en la mondo facte la anarchistoi postulas ke la simpla facto nascigi raitigas vivi egaletse cun sama aliro al ricciajoi. L'anarchista federatio insistas pri la necesso lucti por alia rilato alla vivajoi cae la medio enchovita en necessa socia cae liberezzana revoluzio. Do jen tiu texto.
La France traduit quoi ble.
Yes. Yes, la France versio,
oui. Donc on vient de vous lire, on avait traduit donc en espéranto la motion du congrès de la Fédération anarchiste qui s'est réunie donc les 27, 28 et 29 mai 2023 à Cologne. Ni capitalisme vert, ni nucléaire. Donc en espéranto, on est obligé de dire, de préciser, ni énergie nucléaire, quoi, il faut... C'est pour ça. Donc, ni capitalisme vert, ni nucléaire. À cause notamment de l'agro-industrie et des pesticides, la faune sauvage disparaît de façon plus ou moins importante, parfois même irrémédiablement. Les sols s'appauvrissent, la pollution s'accentue. L'accès à l'eau se raréfie et la guerre autour d'elle se rapproche, comme à Sainte-Soline. Les ressources minérales sont surexploitées. Le vivant est compris trop souvent comme une ressource qu'il faut s'accaparer. Les États organisent et accompagnent cette situation, législation adaptée, financement dédié, répression des oppositions, accroissement volontaire des peurs pour s'afficher comme le sauveur unique. Tout ceci assure l'expansion du capitalisme en développant sa variante verte, entre guillemets. Les États jouent sur les chiffres, déforment la réalité, modifient le vocabulaire en fabriquant une nouvelle langue. Ainsi, comme l'alchimiste change le plomb en or, le nucléaire devient une énergie verte, bas carbone et neutre. Alors que c'est une énergie centralisée, reposant sur l'extractivisme mené notamment dans nos ex-colonies, polluant et gaspillant l'eau, engendrant des déchets pour des millénaires et imposant une société sécuritaire et militariste. Devant ce constat, la Fédération anarchiste réaffirme dans son 81e congrès à Köln la nécessité de lutter contre le capitalisme, qu'il soit vert ou non, et pour une décroissance entre guillemets, libertaire, donc une décroissance libertaire entendue comme le ralentissement du cycle production-consommation, entre parenthèses désescalade, selon les capacités de la planète et sous réserve que les besoins essentiels des populations soient satisfaits dans quelque partie du monde que ce soit. En effet, les anarchistes postulent que le simple fait de naître donne droit de vivre de manière égalitaire avec un même accès aux richesses. La Fédération anarchiste insiste sur la nécessité de lutter pour un autre rapport au vivant et à l'environnement, inséré dans une nécessaire révolution sociale et libertaire. Donc c'est donc la motion de congrès donc de la Fédération anarchiste qui a été réunie donc le 27 et 28 mai à Köln.
Voilà, oui, 27, 28, 29, oui. Les 3 jours.
Oui.
Loïen, Bonnet, Tchouni.
Alonson.
Yes. Ça, c'est Alonson.
Une pauvre parole, il poste la musique, comme il s'y est. Donc, malgrable à Alonson, c'est la malapère de Juliette Boyer, ni à Camaradine ou Juliette Boyer, qui est donc déclara qui ou fort pas si ce justice active à Satanino qui est Satami Caranino un cauto.
Ah yes.
Mikrales qui ti chiuconis chin chune
qui. Ah yes.
Chem tresin donem qui active à Satami Caro principe.
A fable qui a yes.
A fable
Juliette.
A fable il y a personne.
Juliette Boyer.
Mi audition Chimaten et chi trapassis comment c'est des unis ou c'est le ministère d'Antaoué dominou.
Il y a un cas au miné, c'est un cas au
miné. Mais c'est un nour Chimaten.
Yes.
Donc, il y a un cas. Comme si on m'y avait sali une annonce, tout est mal ça, mais comprenable. Qu'on m'y a pratiqué, on y faros. Cours en pré-espéranto en l'association philotechnique de Paris. Tu es à ce 18 rue des Fossés Saint-Jacques. Tu es à la cuvine à Quartal. Estos en tout et d'où des gvar intervenoi de octobre au gismaio. Tu es au cas au sein de la sidéio des associations philotechniques dont il reste à ce décoq strato des fossés Saint-Jacques de la dectrie à Caïdouono gisla d'Aiguine comprenable et bien fratine au cabinet me farastion tout est même vol et évidentas c'est de pour la estastamen on est à même des papagiques d'Aiguine et ouroïne pour la yaro dont il reste à ce comprenable pour la dossier c'est de bien fratine comprenable et faire tient tout est sain pagé comme tio mi vola sanon si que mi faros promenade d'un coro antao la fino des tio yaro des tio quel dire des tio cette année scolaire des tio studa yaro uno caso sta deco ca de junio estas mercredi. Il y a d'aiguine à Choro, car il y a doua au casos, il y a la cuvine de Julio, en cas où il y a d'aic cuvine à Choro. Tiou doua promenade, il y a stas malsama, il y a commensos La commune sur Estos, la statue de la liberté en Respublico. Eble mi tro traducos franslingue, qui eble do mi annoncis, mi creas que tu comprenis. J'ai annoncé que notre amie Juliette Boyer est décédée début juin. Je viens seulement de le savoir aujourd'hui. C'était quelqu'un de très actif, une personne absolument charmante et qui était aussi active sur le plan de cette et sur le plan aussi de cette amica. Elle aidait beaucoup. Bon, donc c'est vraiment quelqu'un qu'on va beaucoup regretter, quoi.
On pouvait compter sur elle.
Je la connaissais depuis longtemps. Ouais. Je crois que nous la connaissions tous les trois depuis longtemps.
Ouais.
Alors, deux autres annonces qui n'ont absolument aucun rapport avec la première, c'est que ma sœur, donc Sylvie, donc fera un cours d'espéranto. J'essaierai de l'aider dans ce cours-là, quoi. Fera un cours d'espéranto à la Philotechnique, Association Philotechnique de Paris, qui est 18 rue des Fossés Saint-Jacques. Voilà. Donc l'adhésion pour l'année est de 55 euros. Bon, c'est évidemment Sylvie fait ça tout à fait bénévolement, quoi. Mais enfin, ce sont des frais de dossier, quoi. Et donc il y aura 24 interventions. Ça aura lieu le jeudi de 13h30 à 15h. Donc ce sera toute l'année, sauf en dehors des périodes scolaires de la région parisienne. Voilà. Troisième annonce que je voulais faire, c'est les balades. Je fais encore deux balades dans Paris pour parler de la commune. Une aura lieu le 28 juin et la deuxième aura lieu le 5 juillet. Ce sont deux balades différentes, mais elles démarrent du même lieu. Elle démarre de la statue de la République, sur la place de la République. Et la deuxième balade, d'ailleurs, entre autres, passe par Publico. Hein. Donc elle passe par le lieu Publico. Voilà. Donc une le 28 juin et l'autre le 5 juillet. Donc ce sera à 15h à ces deux dates en question. Quoi. Voilà. Voilà, je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. En termes d'annonce, après il y aura des balades qui seront faites également sur le mois d'octobre. On prépare une très grande balade avec à la fin il y aura une représentation théâtrale. Bon, mais là ça aura lieu au mois d'octobre. On est déjà en train de la préparer actuellement, quoi. Voilà. Voilà, je crois que
la soyez ni anto et je douce maino ni parolis pri la Esperanto kursoj iuj baldaŭ. Commençons, c'est coutumé, fini de septembre, commencer de octobre. Hein, yes. Quand parolante avec Bruno Henri, yes, Bruno diris almi, en Thionville, ni Avas, ni Ancao, guidas coursoin, do Chiouyare, quand pour la commençantoy, quand pour la progressantoy, ça se doux coursoy, pour la commençantoy, ça se chiou jaode, tio, au casa, c'est en Thionville, pour tio, qui ou voyageas, qui qu'on a sa gué à Micoin, qui ou yodjas, c'est en la proximité de Thionville, qui est proximé encore des Metz, comprenez-vous, la grande d'Aurbo, qui yes. Qui lit contactou Esperanto Thionville, tu vois, c'est un chaos vide blanc, qui est facile de trouver blanc sur Computilo, yes, per Computilo. Yes, qui la progressante, il y a 12 foyers monatés, qui est au casas, play of T, sabaté matinée, yes. Donc, oui, j'aurais peut-être dû le faire qu'en français parce que ça concerne beaucoup ceux qui débutent, mais il y a quand même ceux qui sont en progrès déjà pour leur deuxième année. C'est Esperanto Thionville, voilà, parce que notre ami Bruno nous informe que là-bas aussi, pas loin de Metz, hein, dans toute la région de l'Est, eh bien, il y a des cours d'espéranto. Il y a Esperanto Thionville qui donne sans arrêt à tous les ans des cours d'espéranto. Il y a des gens qui viennent et donc les débutants c'est chaque jeudi et ceux qui sont déjà un peu confirmés, ceux qui sont en progrès, et c'est deux fois par mois, voilà, c'est le samedi matin même, voilà, il y a des précisions. Allez sur internet, hein, sur le site de Esperanto Thionville, voilà. Très bien. Là au mieux, c'est ce momento pour.
C'est simple pour commencer.
Commencer. La lezionon, la dectrian lezionon.
Donc, il y a mes paroles sur Francine, je vais porter où les tions, je ne m'y commence cette semaine.
Oui, je suis.
Bon, alors, la dernière fois, donc, Hubert a proposé un texte dialogué et a fait un rappel sur l'usage des suffixes. C'est quelque chose de très utile dans une langue agglutinante. Le fait de connaître une racine, évidemment, permet de former de nombreux mots à l'aide de préfixes et de suffixes. Il a aussi présenté des petits mots, prépositions, conjonctions, adverbes, etc., qui donnent précision et souplesse à la langue. Dans cette 13e leçon, à savoir donc la leçon d'aujourd'hui, nous réviserons l'accusatif et parlerons de style. Alors, dans les leçons que nous allons faire maintenant, ce sont plus des leçons, ce sont davantage des leçons pratiques, en fait, et dans ces leçons pratiques, nous n'allons pas voir de nouvelles notions. Encore que nous verrons dans cette leçon deux chapitres différents. Le premier, c'est l'accusatif que nous avons déjà vu. Et donc là, c'est une révision. Et puis après, nous parlerons également de style, quoi. C'est-à-dire, on parlera des principes de nécessité et de suffisance. Donc, voilà. Alors, pour l'accusatif, alors évidemment, toujours vous référer en fait aux leçons qui ont déjà eu lieu et que vous pouvez réécouter en rediffusion. Hein, donc voilà. Donc évidemment, ce qu'on va dire, c'est extrêmement succinct. Hein. Alors, l'accusatif n'existe qu'à l'état résiduel en français. Il y a quand même un accusatif, mais il est très résiduel en français. Par contre, il existe dans de nombreuses langues et il va servir dans trois cas. Alors, le premier cas dans lequel va servir l'accusatif, eh bien, il désigne, grâce à la terminaison « en », c'est « en », on l'a déjà vu, l'objet ou la personne qui subit l'action, ce qui permet de construire la phrase avec une grande souplesse. On peut aussi bien avoir sujet, verbe, complément, que sujet, complément, verbe, que verbe, complément, sujet, que verbe, sujet, complément, que complément, sujet, verbe, ou complément, verbe, sujet. Donc on peut avoir, pour les verbes, évidemment, qui sont des verbes actifs, hein, on peut avoir donc ces six possibilités pour la même phrase. Et selon le fait qu'on va plus ou moins changer la forme de la phrase grâce au fait que l'accusatif va toujours nous dire quelle est la personne ou l'objet qui subit l'action, et puis on pourra mettre plus l'accent, on pourra faire des formules de style quoi qui vont permettre de mettre davantage l'accent sur le complément, davantage l'accent sur le sujet, davantage l'accent sur le verbe. Donc ça permet aussi d'avoir un certain style aussi dans l'expression. Alors si je dis bon la patro vocasta philon, je comprends, ça c'était déjà un exemple qu'on avait donné, hein, donc vous reverrez en rediffusion. Hein. Si je dis la patro vocasta philon, c'est-à-dire le père appelle l'enfant, hein, appelle le fils, hein, ben on comprend que c'est le père qui appelle le fils, hein, puisque philo c'est fils, philon, donc il y a le N, donc il donne la marque de l'accusatif. Mais je peux aussi bien dire, bon là je prends carrément à l'envers, hein, par rapport à ce que nous aurions l'habitude de faire en français, on pourrait aussi bien dire la philon vocas la patro. Mais la marque de l'accusatif sur philo me dit sans ambiguïté que c'est toujours le père qui appelle le fils, même si le mot fils débute la phrase. Alors nous avons vu que cette même phrase peut être formée de six manières différentes. Là, je vous renvoie encore une fois aux rediffusions qui vont permettre de fixer les notions. Toujours se référer évidemment aux leçons précédentes qui peuvent être rediffusées à loisir. Alors l'existence de l'accusatif donc permet une grande précision dans l'expression. Nous avons donné cet exemple qui est ambigu en français. Hein. Nous avions donné cet exemple « Il aimait son fils, ce vainqueur ». Alors en français, il est difficile de savoir si le vainqueur, c'est le père ou si le vainqueur, c'est le fils. Alors en espéranto, ben on dira « Liamis sian filon tiu venkinto ». Dans ces cas-là, c'est ce vainqueur qui aime son fils. D'accord. Au contraire, si on dit « Liamis sian filon tiun venkinton », on sait que c'est le fils et non le père qui est le vainqueur. Voilà. Donc ces ambiguïtés qui pourraient exister en français n'existent pas en espéranto grâce à l'accusatif. Alors, deuxièmement, il existe aussi un accusatif de mouvement, un accusatif de direction. Hein. Nous avions donné l'exemple du chat qui saute sur la table. Hein. Alors, est-ce que ce chat est déjà sur la table tandis qu'il saute, ou bien saute-t-il sur la table alors qu'il est à terre, par exemple hein. Alors s'il est déjà sur la table, nous dirons, avec cet accusatif de mouvement, hein, la cato salta sur la table. Il n'y a pas d'accusatif, hein, il est déjà sur la table et il saute. Hein. Au contraire, s'il est à terre et qu'il vient sauter sur la table, nous dirons la cato salta sur la table. Il suffit de revenir aux rediffusions pour avoir les bonnes explications. Là, on n'aura pas d'exercice dessus. Hein. Et puis, il existe enfin un accusatif de remplacement. Ici, l'accusatif remplace une préposition. Au lieu de dire « mi iras al pariso hein, »,« al pariso », eh bien, je peux dire « mi iras parison ». Au lieu de « mi obeas nur al ratio », je peux, donc, j'obéis seulement à la raison, hein, je peux dire « mi obeas nur ration ». Ration, donc l'accusatif, est un accusatif ici de remplacement. « Mi restis dum dumonat oien carcero », bon, ça n'est pas encore arrivé, mais je pensais à Lucio Urtubia. Donc, « mi restis dum dumonat oien carcero » peut devenir « mi restis dumonat oien carcero ».« Tiu tablo estas longa ie dumetroi » donnera « tiu tablo estas dumetroi longa ». Donc, voilà, la préposition est remplacée par un accusatif. Alors, encore une fois, n'hésite pas à te rediffuser les précédentes leçons. Alors, en un quart d'heure, nous aurons du mal à faire davantage. Et là, je crois qu'il est maintenant un petit peu intéressant de parler du style. Bon, on va essayer d'évoquer deux principes, hein, le principe de nécessité et le principe de suffisance. Alors, en fait, en espéranto, ben, l'espéranto est une très, très grande richesse, une très grande simplicité. Et cette richesse, cette simplicité de l'espéranto, ben, elles conduisent parfois à en faire un peu trop quand on s'exprime et à faire avoir éventuellement un style qui pourrait être lourd, quoi. Alors, la simplicité, évidemment, est toujours préférable. Il faut être précis et compréhensible, mais il ne faut pas non plus devenir lourd. Alors, voilà ce que dit Eugène Lanty, qui est interrogé sur la très belle traduction qu'il a faite du Candide de Voltaire. Je rappelle donc le Candide de Voltaire, Diderot, avec méchanceté, disait de Voltaire, il est le second de tous les genres, mais par contre, quand Voltaire écrit des contes, il est vraiment le premier à ce moment-là, dans ce cas-là, parce que son style est magnifique. Alors, voilà donc ce que dit Lanty. Alors, si tu veux le lire en espéranto, hein, et puis bon, après, éventuellement, on peut le traduire. Donc, je te trouve la page. Donc, quelqu'un demande à Lanty comment il a fait pour aussi bien traduire Candide, quoi. Et ensuite, Lanty donc, répond à ça.
Et il y en a littéralement mis les services. Con grande intereso kai vera giuo mi legis Candide en via modela traduco. Ancao mi legis diversa in recensoi tre favorain kai aparte mi notis che oni laudas vin pro tio che vi curagis sen balastigi la lingvon ie sen utilai suffixoi. Estas certe che tia sen balastigo faras la stilon pli malpesa. Venis al mi en la capon la ideo el trovi la principoin cun gvidis vin. Mi sercis sen successe. Ciu do vi ne consentos conigi ilin alla legantoi de sen naciulo, o ciu la secreton vi volas gardi. Alors, estis du...
Non, maintenant, c'est la réponse de
Lanty. Mia correspondanto trovi citi respondon. Novai principoin mi ne eltrovi, sed simple penis pli mal pli severe appliqui tiun iam de longe starigitan de la Academio. Segve cuchas en la afero, neniu secreto. Ien la principoi. Unue principo de necesso. En construon de vorto oni devas enconduci ciun vort radicoin suffixoin, prefixoin cae finigioin necessain por elvoci clare cae plene la ideon representotan de tiu vorto. Principio de sufficio, se la ideo tia maniere esprimita estas iam bone cae neconfuseble comprenata el la contexto, sen iu el la suffixoi usitai, tiu ci suffixo povas esti elgetata, kiel ne utila cae ne necessa. Mais il est légal.
Oui, c'est ça.
La malfacile couchas nur en la appliquant des tu d'autre sagaï principal. La guidante de niaï lingvai institutioi de vous clarigi il in detale per multai exemploi. Bedorinde mi astie, tion ili ne faris, kai ec en la practico ili mem plei ofte ne applicas la duan principon. Por clarigi mian comprenant pri la applico de tiu principo, ni consideru exemple la suffixon ets.
Ets, ets.
Generale, mi eljetas tiun suffixon se radicoi adjectivai.
Adjectivai, yes.
Adjectivai. Tiai radicoi enavas en si iam abstractan senson, seve la aldono de ets tia case estas simpla balasto, pleonasmo. Cetere oni povas rimarki ke Zamenhof mem, kiel aliaj plej bonaj aŭtoroj, tute hazarde, senkritike uzas aŭ ne uzas la sufikson -ec. Jen oni legas eblo, jen ebleco. Jen neceso, jen necesseco. Mi jam rimarkigis ĉi tie, ke Zamenhof en la Biblio senkompate elĵetis eĉ c'est alt, grande, large. Tu radicoi estas adjectivai cae segve entedas iam en si et san abstractan senson. Oni povus verci detalan dissertajon pri la demando. Ciel applicas la verkistoi la du ci supre cititain principoi. Estus facile montri che ili estas sencese malobeatai. Fusce applicatai de tu qui oni cutimas nomi niai plei bonai autoroi. Verdire culpa sentio la sen consia ligitezzo alla nazia gepatra lingvo. La fuscentoi de la spirito de Esperanto, cae l'autoro mem ne malofte, simple estas sen consiai naziemuloi en la usado de la lingvo. Ia foie ili applicas tutte sen besone suffixoin, tial che per tio Esperanto pli proximigas la nazia lingvo. Cae tio ocasas ne nur pri suffixoi, sed anco en prefero por longai, pesai formoi, kiel cia maniere, kia maniere, nenia maniere, tia maniere. Anstato la simplai ciel, kiel, neniel, tiel, cae simile. Vortoi el la genie el pensita tabelo de la correlativai vortoi. La unuae formoi estas internaziai, la duae sennaziezai.
C'est bon. Donc là, on va s'arrêter là. Donc, on va peut-être le traduire en français. Donc il écrit donc à propos du style. Donc voilà la lettre que reçoit Lanty, je résume. Hein. Quelqu'un lui écrit qu'il a lu avec beaucoup d'intérêt la traduction qu'il a fait de Candide, et il a trouvé que cette traduction était vraiment simple et élégante, on peut dire. Et puis il a également lu plusieurs critiques de cette traduction de Lanty. Bon, c'est vrai que Lanty, il a été très applaudi pour cette traduction qu'il a fait des trois contes de Voltaire, entre autres de Candide. Et il se dit, tiens, c'est sans doute parce qu'il a supprimé beaucoup de suffixes qui n'étaient pas nécessaires que son style est devenu léger, quoi. Alors il s'est dit, mais comment est-ce que tu as fait quels sont les principes que tu as trouvés pour réussir à faire une traduction qui soit aussi légère, aussi élégante, quoi. Alors, est-ce que tu veux bien nous dire, nous, lecteurs de Sennatsioul, hein, donc voilà, ou bien est-ce que tu veux garder le secret pour toi? Bon, c'est une façon pour blaguer, quoi. Alors, donc, Lanty, donc, il dit, voilà, notre correspondant va trouver ici ma réponse. Je n'ai inventé aucun nouveau principe. J'ai juste, avec difficulté et sévèrement, appliqué des principes qui ont déjà été proposés par l'Académie depuis longtemps. Et donc, l'affaire, dans cette affaire, il n'y a aucun secret. Et voilà ses principes. Alors, il faut quand même dire qu'il écrit ça en 1929. Donc, l'espéranto a encore de la démarche à faire, quoi. Mais enfin, dès le début, en fait, il met en place donc ses secrets après, ses principes, enfin, qu'il dit secrets entre guillemets. Et ensuite, après, on verra ce qu'en dit Cherpillot, quoi. Alors, il parle du principe de nécessité. dans la construction d'un mot, on doit utiliser toutes les racines, les suffixes, les préfixes, les terminaisons qui sont nécessaires pour qu'on soit clairement compris, quoi. Mais il y a aussi un autre principe qui est le principe de suffisance à côté de ce principe de nécessité. Si l'idée qui est exprimée est déjà bien compréhensible, c'est pas la peine d'en rajouter, quoi. Et donc, si un suffixe ne fait qu'être redondant par rapport à ce qui est déjà dit, ben on peut le jeter sans aucun complexe, quoi. Alors la difficulté, en fait, c'est d'appliquer ces deux sages principes qui sont les principes de nécessité et de suffisance. Et il se plaint que il se plaint que ceux qui guident des cours, en fait, ne s'en préoccupent pas assez. Ils devraient le faire et donner des exemples. Et bon, ils ne le font pas dans la pratique. Bon, en 1929, encore une fois, quoi, il y a encore des progrès à faire, quoi. Alors, pour que je m'explique bien par rapport à l'application de ce principe, on va considérer par exemple le suffixe « ets ». Alors « ets », c'est le suffixe qui donne le caractère abstrait d'un mot. Par exemple, « belle » c'est « beau », la « bellezza » c'est la beauté. Hein, voilà. Alors, en principe, il faut en l'air tous les suffixes qui ont une... Pour être, qui ont une racine qui est un adjectif. Alors parce qu'en fait, ces racines, elles ont déjà le sens est déjà donné déjà dans la racine même, quoi. Et à ce moment-là, c'est pas la peine de faire de la redondance et du pléonasme. Alors donc il voit que Zamenhof lui-même n'a pas été totalement clair par rapport à ça. La langue est quelque chose de vivant et donc il faut la faire l'utiliser en fait pour qu'elle prenne vraiment sens, quoi. Et alors il dit mais quelquefois on lit pour dire possibilité, on lit des fois Eblo, des fois Ebletso. Alors est-ce que c'est nécessaire de mettre Etz après Eblo pour dire possibilité? Des fois on lit Netzes, des fois on lit Netzesetso et bon et d'autres choses comme ça. Alors il remarque que Zamenhof, qui a traduit la Bible, il a impitoyablement jeté tous ces ets qui étaient inutiles, hein, et donc il fait alto pour alt, altezzo, grandezzo, largezzo, il fait alto, grande, largo, quoi. Hein. Et donc ces racines qui sont des racines d'adjectifs. Ils ont déjà en elles-mêmes l'expression de abstraite, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Alors on pourrait écrire une dissertation longue à propos de cela, quoi. Et comment font les auteurs pour appliquer ces principes? On pourrait montrer facilement que ces principes sont souvent désobéis, quoi, voilà, donc et utilisés de manière mauvaise, quoi. Alors il cherche la raison à ça et parce que dans un autre article, en fait, Lanty, qui est très provocateur toujours, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Lanty, hein, c'est quelqu'un qui est toujours qui va toujours porter la contradiction. Et il dit à un certain moment, ça c'est dans un autre article, que l'espéranto est la langue la plus difficile à apprendre. Alors qu'en fait, on sait bien que l'espéranto est une langue facile à apprendre, mais il dit que c'est une langue difficile à apprendre à cause des préjugés qu'on a de sa propre langue maternelle, quoi. Et qu'on essaye des fois de traduire mot à mot et de faire des traductions qui sont en fait, si on parlait du français, on est en train de faire du français traduit en espéranto, mais c'est pas de l'espéranto, quoi. Alors, il dit que lui-même d'ailleurs, il a aussi ces difficultés-là, quoi. Et donc, des fois, on utilise des suffixes de manière tout à fait inutile, hein, de façon à faire ressembler l'espéranto à sa langue maternelle, quoi. C'est pas nécessaire. Mais cela ne se présente pas seulement à cause des suffixes, mais aussi, on a aussi des formes qui sont longues et lourdes, comme par exemple, on dit chiamaniere, chiamaniere, neniamaniere, tiamaniere, etc. Alors qu'en fait, on pourrait très bien dire De toute façon, une certaine façon, d'aucune façon, de cette façon, etc. Quoi. Bon, mais on a en fait elle qui pourrait permettre de dire le suffixe elle qui pourrait nous permettre de dire, au lieu de dire chi à manière, on pourrait dire chi elle. Qui à manière, on pourrait dire qui elle. Néni, elle, ti, elle, qui a été, etc. Quoi. Donc, il propose en fait des formes qui sont plus élégantes. Et d'ailleurs, je faisais remarquer, quand on a commencé ces leçons d'espéranto, quand on regarde le dictionnaire français-espéranto, espéranto-français, on s'aperçoit que la partie français-espéranto est beaucoup plus grosse que la partie espéranto-français. Parce qu'en fait, on peut faire des choses beaucoup plus simples. J'ai l'impression qu'on dépasse un petit peu le temps, mais est-ce qu'on s'autorise quand même à parler de ce qu'en dit cher Pio ? Ou est-ce que...
Oh oui, on peut... Oui,
oui, on oui, a... oui, 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 bon, oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui.
Bon, on a dépassé les 15 minutes, hein,
je suis désolé. Oui, c'est pas grave, oui, oui.
Alors bon, voilà donc plus, ce que dit cher Pio, donc, sur ses principes de Netzes au Kiesuficho, donc... alors, des fois, on s'aperçoit que la langue évolue et que les mots sont un peu différents. Alors, est-ce que tu veux le lire, donc, sans forcément lire les attaques qu'il fait contre l'Académie. bon, alors...
Ah oui, oui, oui.
Bon, mais bon, parce qu'il y a toujours le caractère, hein, Charpie.
Ouais. Il est passé par là, hein, il est passé par là aussi, hein.
Oui, oui.
Donc, il est connaisseur, quoi.
Il s'engueule à peu près avec tout le monde. Comme... Bon, mais il a raison.
Netzeso kai sufficio. J'y estas très grave principio el pensita de René de Saussure. J'y aperis en la officiella gazetto en mayo 1903 kai estis officialigita de la Tiama Academio.
Pardon, mais facte, René de Saussure, et ça, c'est la frato des Ferdinand de Saussure, c'est de tout énetem esprit Ferdinand de Saussure. Ah. René de Saussure estis espérantiste. Pardon, mais...
Principio de necesso. En construo de vorto, oni devas enconduci ciun vortradicoin, suffixoin, prefixoin, cae finajoin necessain por elvoci clare cae plene la ideon representotan de tiu vorto. Exemple, mangio, en la senso io mangebla, estigas ne comprenon. Estigas ne comprenon. Effective, j'y pecas contra tiu principio, char la radico mange estas verba, do indicas agon. Consequence, mangio estas la nomo de tiu ago. Por nomi materion mangiotan, oni devas aldoni suffixon, oni ricevas la vorton mangiajo. Principio de sufficio, se la nocio cun vorton esprimas estas bone kaj nekonfuzeble komprenata sen iu el la sufiksoj, tiu ĉi sufikso povas esti elĵetata kiel neutila kaj ne necesa. Ekzemple, la vorto fabrikejo pekas kontraŭ tiu principo, ĉar la difino mem de fabriko sen sufikso entenas la nocion ejo.
Jam la loko kiu ne fabrikas.
Do tiu sufikso ejo estas trova. Same eraro en Koreio. Char Coreo estas Coreio. Char Coreo estas iam internacia nomo de Londo. Do la sufixo io estas troa. Kvankam gin trudas la Akademio. Tiu principo postulas ankaŭ la rekonon de la fixezzo de la gramatika radik karakteroj. Ekzemple por si ke nobelo, najbaro elvokas la ideon de persono. Dum nob kai proxim bezonas por tio la suffixon ul, noblulo, proximulo, oni devas rekoni sen ambiguizo ke nobel, naibar, estas radicoi substantivai. Dum nobl, proxim, estas radicoi adjectivai.
Adjectivai.
Sen la constantezzo de la grammatica caractero de ciui radicoi, kiel en la aliai lingvoi, tiu principo estus sensa, kai esperanto estus neusebla
rosso. Do, ni devas ankaŭ diri, ke, cher Pio, considère à ce qu'il y a play grand d'aver questas tim iusis multaniar un porfaritian estas vortar au prix étymologie au doli estas très très estas très précis à prix tio qui do il montre à ce qu'estas vortoi qui est ce radic ou estas verbe vortoi qui est ce radic estas adjectivae aliae qui est radic estas substantivae. Je traduis un petit peu en français, quoi. Donc, nécessité et suffisance, c'est un très important principe, très important principe pensé de René de Saussure. Donc, René de Saussure, l'espérantiste, hein, pas Ferdinand de Saussure, il est apparu dans le journal officiel en mai 1913. Hein. Il a été officialisé de l'Académie de l'époque. Donc à l'époque, il n'aurait pas été méchant contre l'Académie aujourd'hui, si. Alors, principe de nécessité, quand on construit un mot, on doit évidemment utiliser toutes les racines utiles, les suffixes, les préfixes, les terminaisons, etc., pour qu'on se fasse correctement comprendre. Par exemple, manjo, ça a un sens... Manjo, dans le sens de quelque chose qui est mangeable, on ne peut pas comprendre, parce qu'en fait, ça pêche contre ce principe de nécessité, car de fait, la racine manjo, c'est manjo, manjo, c'est une racine, c'est manji, c'est la racine, une racine verbale. Donc ça indique une action. Hein, donc si on dit manjo, on ne comprend pas ce que ça veut dire que manjo. Donc, pour comprendre ce que c'est que de la nourriture, on va dire c'est manjage. Donc, il faut, pour le coup, utiliser le suffixe age. Manjo, manjage. Alors, donc, quelque chose qu'on mange. Alors, mais par contre, il est beaucoup plus... En général, il se plaint plutôt de... Le principe de nécessité, en général, est utilisé. Hein, c'est en général le principe de suffisance qui nous amène à construire des choses un petit peu lourdes, quoi. Alors, si la notion qu'un mot exprime est parfaitement et très compréhensible, sans s'ajouter des suffixes, à ce moment-là, ce suffixe, on peut le ficher en l'air sans aucun problème, quoi. Par exemple, le mot fabriqueio. Fabrico, ça veut déjà dire une usine, d'accord ? Le mot fabriqueio, il pêche contre ce principe, parce qu'on ne va pas dire le lieu du lieu de l'usine. C'est le lieu de l'usine, c'est fabrico, c'est déjà un lieu en soi, donc c'est pas nécessaire d'en rajouter ei, qui est le suffixe du lieu, pour dire fabrique. C'est rajouté en trop, quoi. Alors, il dit également, alors ça c'est vraiment le gros dada de d'André Charpillot, c'est-à-dire c'est là-dessus qu'il s'est fâché avec l'Académie, c'est sur les noms de pays, quoi. Alors, le Coréo, c'est déjà le nom, le Coréo, ça veut dire Corée, voilà, ça veut dire la Corée, voilà, Coréo. Donc, Germano, c'est un Allemand, Germanio, c'est le pays où il y a les Allemands. Donc, effectivement, on va dire l'Allemagne. Germano-Allemand, Germanio. Germano-Allemand, Germanio-L'Allemagne. Mais, parce qu'on a le terme qui est en fait Germano. Mais, quand on a le mot Coréo, qui signifie déjà Corée, pourquoi rajouter derrière un suffixe qui est Io ? Ce serait pareil si on disait Coréouio, ça n'a absolument aucun sens. Quoi. Voilà. Donc, le suffixe Io, dans ce cas-là, est en trop, quoi. Alors, évidemment, ce principe donc suppose qu'on reconnaisse en fait qu'on reconnaisse ce qui est fixe dans les radicaux grammaticaux, quoi. Et il donne l'exemple, par exemple, nobelo, naibaro. Donc, nobelo, naibaro, ça évoque une notion de personne. Donc, nobelo, donc c'est un noble, naibaro, c'est un voisin, voilà. Par contre, noble, alors noble, ça n'a rien à voir avec Nobel. Nobel, hein, c'est noble, c'est-à-dire quelqu'un qui est d'une moralité élevée, quoi. C'est pas, ça n'a rien à voir avec Nobel. Noble, kai proxima, noble, kai proxima, ce sont l'étymologie, en fait, ce sont des adjectifs. Donc, pour le coup, on a besoin, effectivement, comme ce sont des adjectifs, noble accueil proxime, eh ben, à ce moment-là, on doit ajouter le suffixe « oul » pour dire « noblulo », c'est quelqu'un qui a un esprit élevé. Par exemple, « proximulo », c'est quelqu'un qui est proche. Donc, voilà. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il faut le rajouter, quoi. Et donc, on ne doit pas avoir d'ambiguïté, quoi. On doit en mettre ni trop, ni pas assez. Alors, il dit, effectivement, si on en fait trop, ça finit par devenir un véritable chaos. Et entre parenthèses, je crois que la fois prochaine, nous étudierons peut-être... Bon, j'ai dépassé le temps, je suis désolé. La fois prochaine, je crois que nous étudierons un petit peu les participes actifs, passifs, etc. Si on veut absolument traduire les temps composés par des temps composés en espéranto, c'est parfaitement possible, parce que l'espéranto est une langue qui est très riche. Mais des fois, c'est absolument pas nécessaire. Et si on fait des temps composés... ça peut avoir un sens en espéranto, mais si on en rajoute trop à ce niveau-là, on va avoir un style qui va être très long, pesant, lourd, etc. quoi. Donc, il vaut mieux toujours prôner une certaine élégance de la langue, et c'est tout à fait possible en espéranto. Notre problème, en fait, par rapport à ça, ce qu'exprime bien l'anti, en fait, c'est que on est tellement, en fait, conditionné par notre propre langue qu'on cherche à faire une traduction qui reflète notre propre langue au lieu de refléter réellement l'espéranto. Moi, excusez-moi, j'étais un peu trop long.
Digital artificial intellecto.
Yes.
Bayesh, Kai, Naomi, la Unua, ça se doit, d'où articolo, il y a diversa, il faut que tu Unu, qui ou présentis des mandoïnes de faré de la Revu Esperanto, yes, et qui ou Revu, Kai, le respondanto est si tu ou qui le pose dire, qui ou organiso, qui ou nomas chat gopoto, yes. Qui ouvre la tasse à l'organiso, qui commence à se laboriguer. La tune apparaton, tune computilon, tune qui est un peu rasiri, tune programmon, je programmon, qui ou facté nobijas à I.
Artificat, c'est pas ça. Artifica intellecto.
Estas du parto facte. Iu sense dispertas pri verkado en Esperanto.
Yes.
Yes, pri verkado en Esperanto. Sed por la demando i pri la la generale la movado, ni diru la Esperanto movado, la respondo il estis interesaj.
Ne.
Estis complètement banal.
Yes, yes.
C'est intéressant et banal. Quand tu es pour la doua partout, ça se Anna Shriganova qui a facté par un des mandoïnes. Donc voilà, on dit bonne gagne des mandoïnes. Quand Martine Roué restandas nommé Justé des Tiou Artifica Intellecto. Il n'y aura ce djinn, pour n'y laisse tout sous trop d'un ripetado, il n'y aura ce djinn à I. Exemple, yes, outsi, il dira ce légui ou ne?
Yes, ou?
Yes, yes.
Mi commence ce légui, c'est tout. Se mancas tempon, non interrompos. Tengas la fino. Do la unua demando de Anna Striganova, ĉu laŭ via opinio nuntempa artifika intelekto povas krei verkadon tiel ke sperta leganto ne komprenu ke la aŭtoro ne estas homo, kaj se temas pri pentraĵo. Do respondo de Martin Rue. Mi komencu mian respondon per pensado pri alia demando. Kio estas verkaĵo? Se ni volas diri ke verkaĵo povas esti io inskribita kaj ne necese de homo, kaj ne estas limo pri mallongeco, tiam ni efektive diras ke verkaĵo povas konsisti el nur kelkaj frazoj, eble nur unu alineo. Alia flanque, eble ni volas argumenti ke verkaĵo devus esti io defia kaj devus havi minimuman longecon. Eble nur novelon ni akceptus kiel veran verkaĵon. Kial gravas? Se temas pri mallonga verkaĵo de kelkaj alineoj, eĉ paĝo, la kapablo de la nunaj AI-sistemoj ja atingis la punkton en kiu ĝi povas inventi koheran rakonton de tiu longeco. Se tamen temus pri ekzemple plena libro de 300 paĝoj, tiam aperas la truoj. Donc c'est l'interview donc d'un dénommé Martin Rue. Donc c'est Anna Striganova qui fait l'interview. Anna Striganova, c'est une des rédactrices donc de la revue Esperanto. Hein. Esperanto, c'est le bulletin de l'Association universelle d'Esperanto. Donc la première question. Donc c'est un article qui concerne l'intelligence artificielle dont le titre est dans un sens oui elle a une expérience d'écriture en espéranto. Iu sensei yes dispertas pri verkado en espéranto. Donc la question c'est d'après vous l'intelligence artificielle peut créer des œuvres de telle sorte qu'un lecteur averti ne comprendrait pas que l'auteur n'est pas humain, que l'auteur n'est pas humain. Et deuxième question, dans la même question, elle fait une deuxième question, et s'il s'agit de peinture. Donc la réponse de Martin Rue. Je commencerai ma réponse par une pensée sur une autre question. Qu'est-ce qu'une œuvre? Si on peut dire qu'une œuvre peut être une chose, un écrit, et quelque chose d'un écrit et pas nécessairement par un humain, et qu'il n'y a pas de limite de... Alors, le contraire de la longueur, hein, donc c'est la courteur, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là. Il n'y a pas de limite de petite longueur. Alors effectivement, nous disons qu'une œuvre peut consister en seulement quelques phrases, peut-être même juste un alinéa. D'un autre côté, peut-être qu'on peut argumenter qu'une œuvre devrait être, alors j'ai traité ça par un acte de bravoure, parce que io defia, c'est l'adjectif du défi, ah oui, mais en français, j'ai pas le traduire, donc j'ai fait une petite périphrase en disant un acte de bravoure. Donc si on veut dire qu'une œuvre devrait être un morceau de bravoure, et devrait avoir une certaine longueur, une longueur minimum, peut-être nous accepterions comme vrai une œuvre, comme vrai,
seulement une nouvelle,
quoi.
Comme une œuvre véritable.
Oui. Pourquoi est-ce important? S'il s'agit d'une œuvre courte de quelques lignes, même une page, la capacité des systèmes actuels d'intelligence artificielle ont atteint un niveau auquel elle peut inventer une histoire cohérente d'une petite longueur, quoi, de la longueur d'une nouvelle. Mais cependant, s'il s'agissait par exemple d'un livre complet de 300 pages, alors apparaîtraient des trous, il veut dire. Donc c'est des incohérences, quoi.
Oui, je pense que ça, il veut dire.
Donc, la deuxième question, pour Kial, il répond, donc il se fait une question dans la réponse.
Oui, Kial. Avant d'aller plus loin, on peut dire, c'est curieux, parce que quand il répond dès le début, déjà il dit que le lecteur, par exemple, puisse lire quelque chose qui est fait par l'intelligence artificielle, et qu'il ne s'en aperçoive pas, mais quand même, il met, et pas nécessairement écrit par des êtres humains. Quoi. Mmh. Pourquoi il mélange ça dedans, quoi. Donc en fait, sa question, elle, c'est justement au contraire, est-ce que l'intelligence artificielle va être capable de se défier
l'être humain fait. Parce que lui, dans un premier temps, il veut définir qu'est-ce qu'une œuvre. Et lui, apparemment, il y a une question de longueur, plus que de contenu, d'après ce que je comprends, quoi. AI systemoi o pli precise grandai lingvai modeloi en anglais lolomo oui. Funccias kerne lau la concepto de contexto. Iu pli da contexto pro longezzo, des pli defie estas teni la coerezzon sam kiel homa verkisto pene farus tra plena verkajo. Simple, lao la nuna stato de la AI sistemoi, yes, ili ya capabla scribi mal longan verkajon, kiu povus trompi spertan leganton pri la ne homa deveno. Samtempe, ju pli longa estas la verkajo, des pli evidenta estus la ne homa deveno, la kialo ĉefe temas pri la malforta capablo ligi aferojn malproksimajn, profunde, kaj same kiel homa verkisto capablas.
En fait, il répète un peu parce que tout à l'heure, il dit quand même, avant de dire pourquoi, le livre de 300 pages, mais à ce moment-là, il dit déjà qu'il y aurait des trous. Hein.
Ah oui.
Il y aurait des trous. On s'apercevrait qu'il y a des incohérences, sans doute. Il y a des. Bon, voilà.
Donc les systèmes d'intelligence artificielle, donc où il précise, alors en anglais c'est LLM, les modèles de grandes langues fonctionnent de base selon le concept de contexte. Autant de contexte pour la longueur, autant le défi est de tenir une cohérence de la même façon qu'un auteur humain le ferait à travers une œuvre complète. Simplement, d'après l'état actuel des systèmes d'intelligence artificielle, oui, ils sont capables d'écrire des œuvres courtes qui pourraient tromper un lecteur averti de la conception non humaine. Dans le même temps, d'autant plus longue est l'œuvre, autant serait évidente la conception non humaine. La cause principale est la faible capacité à lier les choses éloignées profondément, et de même qu'un auteur humain en est capable.
Ah oui. Oui, donc l'importance du contexte, en fait, et donc il dit que si un auteur fait une œuvre, enfin, le contexte c'est déjà une œuvre en tant que telle, Donc, on fait une œuvre qui a un contexte.
Oui.
Et à partir de ce contexte, on va. Donc, finalement, c'est déjà. Là, le contexte, c'est déjà une création en soi.
Oui, oui, oui. Après.
Donc là, après, il en vient à la deuxième partie de la question, c'était et s'il s'agit d'une peinture. Setemus pri pentrajo mi emas iesi alla demando. Char en pentrajo ne existas la sama defio tiel kiel mi clargis pri texto. Iam existas abstractai art vercoi qui estas malfacile compreneblai kai ne necese devas montri coheron o facte ian ain senson de consistezzo. A i sistemoi kiel Midjourney, Dale kai Stable Diffusion iam capablas crei tiajoin. Donc, s'il s'agissait de peinture, j'aurais tendance à répondre oui à la question.
Ouais,
car en peinture, il n'y a pas le même défi tel que je l'ai expliqué pour un texte. Il existe déjà des œuvres abstraites qui sont difficiles à comprendre
et, Picasso,
et qui ne doivent pas nécessairement montrer de cohérence ou de fait quelque sens de consistance. Les systèmes d'intelligence artificielle tels que Midjourney, DALL et Stable Diffusion sont déjà capables de créer de telles choses.
Bah oui, oui. Bah oui, regarde, il y a beaucoup de...
Tu vas toujours créer un contexte, parce qu'en fait, la machine, tu vas déjà dire à la machine que la... Tu vas déjà dire à la machine que le contexte, ça n'est pas l'œil de la mouche, c'est déjà l'œil de l'être humain. Donc là, déjà, tu es déjà en train de mettre déjà le contexte, c'est l'œil de l'être humain. C'est pas l'œil du cheval qui voit en largeur plutôt qu'en hauteur, etc. C'est l'œil de l'être humain. Donc tu définis déjà un contexte. Tu définis déjà un contexte qui est déjà le contexte humain. Donc on est déjà plus dans la machine.
Dua demando, ĉu ai bone spertas pri verkado ankaŭ en Esperanto? Helpos unu klarigi kiel funkcias ai sistemoj por pli bone kompreni mian sekvontan respondon. Sistemoj kiel ekzemple Gopoto fakte estas simpligita versio de la homa cerbo. Ili konsistas el neuronoj pli ol ekzistas en la homa cerbo. Ili consistas el neuronoi pli ol existas en la homa cerbo, ligitai kai fortigitai per trainado pri iu facco o case de Gopoto Gvar vaste pri multai diversai facoi. La celo kai sola capablo de Gopoto estas daurigi la texton intercitile. Exemple, se vi comensus per la fraso la rosoi estas rugiai kai la, ene de la a i cerbo existas forta vojo de neuronoj kiu kreus la rezulton o ion tre similan. Violoj estas bluaj. Se rozoj estas ruĝaj, la violoj estas bluaj. Donc la deuxième question, est-ce que l'intelligence artificielle a une bonne expérience aussi pour l'écriture en espéranto? Alors, Martin Rue répond, il faut d'abord expliquer comment fonctionnent les systèmes d'intelligence artificielle pour mieux comprendre ma réponse.
Oui.
Les systèmes tels que GPT, de fait, sont des versions simplifiées d'un cerveau humain. Ils sont constitués de neurones, bien plus nombreux que dans un cerveau humain, reliés et renforcés par l'entraînement à un fait ou, pour le cas de GPT-4, des faits beaucoup plus divers. Le but est et la seule capacité de GPT est de, alors entre guillemets, continuer le texte. Par exemple, si vous commencez par la phrase « Les roses sont rouges et là », au sein du cerveau de l'intelligence artificielle, il existerait une forte probabilité, de neurones qui créerait le résultat ou quelque chose de similaire. Donc le début de la phrase c'est les roses sont rouges et les violettes sont bleues. Donc l'intelligence artificielle.
Oui, alors que en fait il y a pas d'évidence dans l'histoire. Les roses peuvent avoir d'autres couleurs. Et il en déduit que les violettes sont bleues, quoi. Mais bon.
Moi, ça me fait penser à ce que disait Pascal. Pourtant je suis pas quelqu'un de très croyant, on va dire. Mais lui il parlait du principe de finesse et du principe de géométrie. Et moi, j'ai l'impression que si tu utilises des ordinateurs, tu es uniquement dans le principe de géométrie. Et quand tu regardes ce qu'a fait Zamenhof, il a créé une langue, toutes les langues qu'on a essayé de créer, toutes ont foiré. Parce qu'en fait, ceux qui étaient parfaits pour créer des langues, ben, ils ont uniquement utilisé le principe de géométrie.
Alors que
Zamenhof, il commence déjà par écrire des poèmes avant même de créer sa langue. Avant 1887, il fait déjà Homi Accord. Et il propose déjà des mots avec des élisions qui n'ont absolument aucune utilité dans la construction de la langue. Et donc là, parce qu'il fait fonctionner, en fait, son principe de finesse. Il n'y a pas uniquement le principe de géométrie dans ce qu'il fait. Et si l'espéranto continue toujours à fonctionner aujourd'hui, même si, effectivement, on pourrait souhaiter qu'il y ait plus de monde qui en parle, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui l'utilisent bien, c'est parce qu'on a à la fois le principe de finesse et le principe de géométrie. On l'a vu, par exemple, quand on a parlé de certains suffixes. Ben, l'espéranto n'est pas parfaitement une langue agglutinante, puisque, par exemple, il y a les suffixes nye et tche. On dit pagno, pecho, etc. Ben, pour le coup, on n'utilise pas la racine entièrement. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser seulement un bout de la racine? Ça, c'est vraiment une fantaisie humaine de Zamenhof, de dire, voilà, on va pas, alors que ma langue, je la veux totalement agglutinante, et ben là, pour créer quelque chose d'un peu affectueux, et ben je me fous dans le flexionnel, je crée quelque chose de flexionnel. Alors qu'il est vraiment à 99%, évidemment, l'espéranto est agglutinant, mais des fois, il met une petite scorie comme ça, qui est une scorie flexionnelle dans une langue agglutinante. Et bon, et voilà, c'est...
Médorigo pris la interview, intellecto, ne venu à la demande. Médiros que j'y stias nenion pritio quel esti verkisto. Sed jia estas trainita per tio multe da datumoi pritio quel aspectas la verkoi de verkistoi. Tiel jia capablas daurigi la texton inter sitile, stile de verkoi o ec stile de iu ein specifa verkisto mem. Do jes ji capablas crei eligon quiu shainas tre simila al verko, sed ji ne estas verkisto. Pri la parto de la demando kiu temas pri Esperanto, indas pensi pri trejnado. Oni trejnas tiun ĉi sistemojn, kiel jam dirite, per multege da datumoj en diversaj lingvoj. Kompreneble, ekzistas multe pli da datumoj en la angla, la hispana kaj tiel plu, ol en Esperanto. Tiel la kapablo verki ion en la angla estas surbaze de pli fortaj ligoj inter neuronoj ol en Esperanto. Kaj do la rezultoj pli bonas. Do iu sense jes ĝi spertas pri verkado en Esperanto, sed multe malpli ol en kelkaj aliaj lingvoj. Sperto ĉi tie temas pri la kapablo daŭrigi la tekston, same kiel ĝi jam vidis en la trejndatumo. Ne ekzemple sperto en pli profunda filozofia senso. Donc, revenons à la question. Je dirais qu'elle ne sait rien de ce qu'est un auteur, ce qu'est être un auteur. Mais elle est entraînée par tant de données pour que cela semble des œuvres d'auteur. Ainsi, elle est capable de continuer le texte, donc entre guillemets, dans le style d'une œuvre au même sens ou même dans le style de quelque auteur spécifique. Donc oui, elle est capable de créer quelque chose très similaire à une œuvre, mais elle n'est pas un auteur. Pour la partie de la question qui traite de l'espéranto, il est bon de penser à l'entraînement. On entraîne des systèmes, comme je l'ai déjà dit, par de très nombreuses données en diverses langues. Évidemment, il existe beaucoup plus de données en anglais, en espagnol, etc., qu'en espéranto. Ainsi, la capacité d'écrire quelque chose en anglais est basée sur des liens plus forts entre les neurones qu'en espéranto, et donc les résultats sont meilleurs. Donc, dans un sens, oui, elle a une expérience d'écriture en espéranto, mais beaucoup moins que dans d'autres langues. Expérience ici signifie la capacité à continuer le texte, hein, toujours entre guillemets, de la même façon qu'elle a déjà vu dans les données d'entraînement, non pas par exemple expérience dans un sens philosophique plus profond. Kio la ovi distingas verkiston, pentriston, homon de la verkanta artifica intellecto. Por mi grava distingo estas la creemo. Gopoto ne celas esti creema. Gi celas dorigi la texton per la nuna contexto cae la algoritmo ec enavas azardetson porque la resulto ne ciam samu. Tamen, homa verkisto, pentristo, povas havi multajn celoj en sia verko. Eble oni volas esprimi sin mem per la kreaĵo o kapti ian signifan emocion en la laboro. Eble homo celas krei ion, kion oni neniam antaŭe vidis aŭ legis. Interi AI male kapablas nur uzi tion, kion jam ekzistas, por si kiel daŭrigi la tekston, kaj por mi tio simple estas alia afero ol vera kreemo. Je vais faire une petite pause là.
Alors, créer mot, c'est, on peut le comprendre comme créativité.
Créativité,
hein,
oui.
Oui, voilà, hein, sans problème.
Alors,
oui.
T'es où d'après vous, est-ce que la question suivante, c'était d'après vous, d'accord. Est-ce qu'on distingue un auteur peintre humain de l'intelligence artificielle écrivant? Tu distingues ça? Alors la réponse, pour moi la distinction est la créativité. GPT n'a pas pour but d'être créative, elle a pour but de continuer le texte dans le contexte actuel et l'algorithme contient du hasard pour que les résultats ne soient pas toujours les mêmes. Cependant, un auteur peintre humain peut avoir plusieurs buts dans son ouvrage. Peut-être veut-on exprimer soi-même, veut-on s'exprimer soi-même par la création ou attraper une émotion significative dans le travail. Peut-être l'humain a pour but de créer quelque chose que l'on n'a jamais vu ou lu auparavant. L'intelligence artificielle, au contraire, n'est seulement capable d'utiliser ce qui existe déjà pour savoir comment continuer, donc toujours cette expression de continuer du texte entre guillemets. Et pour moi, cela est simplement autre chose que de la vraie créativité.
Voilà, ben, on peut arrêter ici, hein, simplement.
Pour aujourd'hui,
et puis discuter sur la partie qui était juste avant cette dernière question là, où tu as. Je suis en train de lire que effectivement l'intelligence artificielle, enfin dans les il y a trois types d'appareils puissants apparemment, hein, d'après ce qu'on a lu tout à l'heure. Hein, je me rappelle pas les noms de ces appareils parce que bon c'est pas très facile à retenir, mais ces appareils-là donc travaillent, hein, sans arrêt et ils comprennent très bien l'espéranto, hein, ça c'est absolument compris. Alors pourquoi il dit effectivement dans les autres langues, les grandes langues nationales, comme ils ont l'air de dire là, anglais, français, espagnol, etc. Eh bien, ça fait beaucoup plus travailler les neurones. Effectivement, l'espéranto, c'est par notre cerveau, on a des racines et on fabrique quoi, hein, l'espéranto. Tandis que les autres langues, c'est des phrases qu'on doit apprendre par cœur, parce que elles sont toutes faites, quoi. Hein, c'est des expressions, voilà. La plupart dans les langages, on apprend des expressions très diverses. Les expressions, eh bien, il faut les rentrer dans la machine. Et la machine, après, elle, ces machines artificielles, il faut refaire des textes avec des expressions. Ça doit être très costaud, hein, quand même, au niveau du travail. Et ça colle pas, sans doute. C'est plus facile avec l'espéranto. Yes. Il le dit carrément, ça fait énormément travailler les neurones avec les langues nationales, on va dire. Ouais. Oui, c'est riche hein, quand même du savoir qu'il donne. Là, oui. Yes. Alors là, c'est la moitié, hein, c'est la moitié du deuxième.
C'est la moitié de l'interview.
On est à moitié, oh, non, on a passé un petit peu. Quoi. Oui, on a passé la page, hein, d'accord. Il restera un petit peu. Une demi-page, il restera. Hein, ouais. Je suis en train de le regarder. Si, oui, oui. Un peu plus loin. Oui, oui. Une demi-page. Do yen facte stas balda ou la fino de ti welsendo ni finos audante musicon de nove. Yes, mi regardas kion mi jam antaŭvidis por vi ĉiuj kiuj aŭskultas nin. Do dankon unue ni salutas ĉiujn. Yes, mi vidas Martin Carilla Talpoi jus passis kaj perdita generatio kial ne la perdita generatio ciamen plu kaj plu kune la florojn. Voilà, ne cueillez pas les fleurs. C'est la génération perdue.
Bien. Gis
Vedanta Semaino.
Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lecteurs doit en marche normale, emprunter la voie la plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement dans les conditions au paragraphe 3 du présent titre. Lorsqu'une voie est délimitée par une ligne accolée à une, le conducteur ne peut franchir cette dernière s'il vit immédiatement à sa gauche. Au contraire, la franchise de l'article 5. Quand on peint sur la route des lignes continues, le conducteur honnête ne les franchit jamais, n'a pas le droit non plus de rouler à cheval dessus. Quand on peint sur la route des lignes pointillées, faut rester sur sa droite, mais on peut les passer chaque fois qu'on est pressé et qu'on veut dépasser. S'il est de genre de lignes continues pointillées, ensemble se présentent, on a le droit de dépasser si celle en pointillé se trouve le plus près. Article 6. Conducteur qui s'apprête à apporter un changement important dans l'allure doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir les autres usagers. Article 7. Conducteur débouchant d'un immeuble en bordure de la route ne doit s'être assuré qu'il peut le faire sans et à une vitesse suffisamment réduite un arrêt sur. Article. Il est interdit de couper les fractions de colonnes militaires ou de cortèges en résumé des articles. Lorsque le conducteur prévoit un changement d'allure ou de direction, ses bêtes ou de sa voiture, il lui